La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens. Si on écoutait les opposants à l'avortement, on tricoterait des brassières aux spermatozoïdes. C'est de Guy Bedos, c'est un petit clin d'œil pour un sujet très sérieux ce soir. Contrôler le mariage et les familles, le droit à la vie, contrer l'égalité, prôner ouvertement la discrimination, mobiliser les sociétés européennes contre les droits humains fondamentaux sur la sexualité et la reproduction, revenir à un ordre naturel des choses. Mais quel ordre? Que veulent les anti-choix? Un rapport inquiétant vient d'être publié sur la question, on le découvre ce soir dans votre rendez-vous de la laïcité Libre Ensemble.
Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble. Nous allons en effet évoquer le dangereux recul de nos droits fondamentaux qui s'opère en Europe. Des groupes anti-choix soutenus et organisés tentent de revenir à un ordre qu'ils appellent naturel. Mais quel est-il et quel danger pour nos démocraties? On le voit tout de suite avec nos deux invités. Julie Pernet, bonsoir Julie.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de mission à la cellule internationale du Centre d'Action Laïque. Et bonsoir Neil Data, à vos côtés.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire pour le Forum parlementaire européen sur la population et le développement. Vous êtes l'auteur d'un rapport de plus de 40 pages sur ce que l'on appelle l'agenda pour l'Europe. Alors, tout de suite, ma première question, qu'est-ce que c'est donc que cet agenda pour l'Europe?
Agenda Europe est un réseau d'organisations de société civile, à peu près 100-150 personnes et organisations issues d'une trentaine de pays en Europe qui se réunissent d'une façon régulière pour faire avancer leur agenda, qui est de restaurer l'ordre naturel. Et pour restaurer l'ordre naturel, ils ont un programme pour promouvoir la vie, le mariage et la famille, et la liberté religieuse. Et pour faire avancer ces questions-là, ils souhaitent faire marche arrière sur les droits humains en matière de sexualité et de reproduction.
On va développer tout ce qui est dans ce rapport que vous venez d'éditer il y a quelques semaines. Quand est né ce mouvement Agenda pour l'Europe? Vous le placez à Londres en 2013, mais en fait, les anti-choix sont là bien avant. Ils sont aussi les héritiers d'un mouvement plus ancien, ces Agendas pour l'Europe.
Oui, eh bien, ce qu'on voit en 2013, c'est la mise en réseau d'une nouvelle génération d'organisations anti-choix. Donc ça, on le constate en 2013 et puis ils se réunissent d'une façon plus ou moins régulière depuis. Ce sont les descendants, c'est la deuxième génération des organisations anti-choix qui est née dans les années 70-80 en mouvement de protestation sur les lois de l'IVG. Mais maintenant, nous voyons cette nouvelle génération qui est professionnalisée, qui a bien rodé son discours politique et qui a pu trouver des moyens pour engager des professionnels, louer des bureaux et puis déployer tout un arsenal de plaidoyers modernes. Et ça, c'est quelque chose de nouveau.
Ce ne sont plus quelques groupuscules ou personnes de manière tout à fait personnelle qui descendent dans la rue pour manifester contre l'avortement, par exemple, mais vraiment quelque chose de très, très organisé aujourd'hui avec beaucoup plus de pouvoir.
Oui, exactement. Nous sommes passés d'un mouvement de militants assez amateurs à un mouvement professionnel. Ce sont des personnes qui touchent un salaire pour faire ce genre de travail. Ce sont des personnes qui ont des diplômes en droit, en politique, qui savent comment naviguer au sein des institutions politiques, des institutions européennes, et qui savent comment faire avancer un agenda politique.
Ce sont, Julie Pernet, aussi des questions sur lesquelles travaille le CAL depuis un certain temps?
Oui, depuis sa création, en fait, en 1969. La liberté de disposer de son corps, l'égalité, les droits sexuels et reproductifs ont toujours été au cœur du combat laïque. Notamment, le local s'est fortement impliqué dans la dépénalisation partielle de l'avortement en 1990. On le voit aussi encore aujourd'hui avec la campagne IVG hors du code pénal, puisque finalement, on se rend compte que tout n'est pas acquis dans ce domaine. Plus récemment, on peut voir aussi un combat assez continu du CAL pour l'accès de tous les jeunes à une éducation à la vie affective et sexuelle.
Les VRAS.
Voilà, les VRAS. Effectivement, que cette éducation soit assurée pour toutes et pour tous par des personnes qualifiées et certifiées. Donc voilà, les droits des femmes, mais aussi les droits des personnes LGBT, puisque en fait, ces mouvements anti-choix dont Neil parle sont effectivement aussi en opposition aux droits des personnes LGBT. lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes également. Donc voilà, tous ces droits ont toujours été au cœur du combat laïque.
Parce qu'on sent que c'est fragile depuis longtemps en fait. Depuis 20 ans, on se dit ces droits fondamentaux, on n'y touchera jamais. Or, si, là on voit ces derniers mois que c'est plus grave que prévu et qu'il faut agir. Or, des organisations comme les vôtres agissent depuis longtemps.
Mm-hmm. Mais on va dire qu'il y a une conjonction de facteurs, effectivement, ces dernières années qui ne sont pas très favorables au progrès sociétal. On voit la naissance et la consolidation de populisme d'extrême droite et autres dans un certain nombre de pays. La Hongrie, la Pologne, mais aussi l'Allemagne, l'Italie. Tout le monde se souvient aussi des grandes manifestations contre le mariage pour tous en France. Donc, voilà, il y a eu tout un mouvement de révolution sexuelle, de libéralisation, etc. À partir des années 70, mais on se rend compte que le retour des obscurantismes n'est jamais bien loin, donc il faut effectivement rester vigilant.
D'où l'intérêt, Neil Data, de ce rapport. Alors, qu'est-ce qu'il contient, ce rapport? Quels sont les grands combats que vous avez découverts derrière ces groupes anti-choix?
Oui, eh bien, ce que nous montrons dans le rapport, c'est comment ce mouvement anti-choix, et puis, en fait, comme Julie le précise, c'est plus large qu'un mouvement anti-choix. C'est un mouvement aussi bien anti-choix et homophobe, anti-droit LGBT.
Oui, quand on dit anti-choix, c'est le choix de la femme à disposer de son corps et anti-homophobe. Bon, ça, c'est vraiment alors de devoir faire une famille, papa, maman et un enfant. Oui.
Et pourquoi ces deux questions qui semblent être des questions à part, pourquoi sont-elles liées? Parce que c'est le mouvement anti-choix, le mouvement conservateur religieux, prône une société où la sexualité n'est autorisée que par un couple hétérosexuel à seule fin de procréation.
Bien sûr.
Donc, une femme qui utilise la contraception ou fait recours à l'IVG ou des personnes de même sexe qui ont des relations, les deux n'aboutissent pas à la procréation. Donc c'est pour ça qu'il y a une relation entre les deux.
Et aussi une petite parenthèse sur les mères porteuses.
Exactement. Toute sexualité qui n'est pas traditionnelle entre un homme et une femme, de préférence au sein d'un mariage, et même avec le but de la procréation, est proscrite. Mm-hmm. Donc ça, c'est le lien. C'est la société qu'il
idéale.
Oui, justement.
Grand retour en arrière, d'idéalisation. Et quelles sont les composantes d'Agenda for Europe? Vous notez trois composantes. On va les détailler. Un blog, un meeting annuel et un manifeste, une sorte de constitution qui établirait des règles et des lois. Comment avez-vous déceler cela, en fait? C'est leur stratégie de communication, en quelque sorte?
Oui. Eh bien, d'abord, le blog, c'est un blog public que nous connaissions depuis sa création en 2013. C'est un blog un petit peu spécial. C'était assez virulent envers certaines personnes, avec souvent des attaques personnelles. Mais en consultant le blog, on pouvait voir ce qui se passait dans ce petit monde. Ensuite, il y a eu les programmes des réunions annuelles. Donc là, si on connaît un petit peu les acteurs, on peut déchiffrer l'évolution de ces réseaux. La première année, ils se posent la question comment pouvons-nous peser. À la deuxième réunion, ils ont au moins identifié leurs priorités. Leurs priorités, la vie, la famille, la liberté religieuse. Lors de la troisième réunion, ils évoquent des stratégies bien précises, des stratégies pour défendre le mariage contre la PMA ou bien d'autres sujets. On n'a pas accès à ces stratégies, mais ils évoquent leur existence. Et lors de la quatrième réunion, c'est très intéressant, là on voit qu'ils évoquent des initiatives politiques qu'ils auraient lancées eux-mêmes. Et donc là on voit le projet d'interdiction d'avortement en Pologne de 2016, les projets d'initiatives citoyennes pour définir le mariage comme un mariage traditionnel au sein des constitutions de Croatie, d'autres pays d'Europe centrale orientale, notamment maintenant en Roumanie. Donc on voit comment ils ont pu évoluer. La troisième composante, et peut-être la partie la plus intéressante, c'est leur manifeste, un document de 130 pages qui s'appelle « Restaurer l'ordre naturel ».
Une sorte de loi naturelle, en fait, qui viendrait d'on ne sait où, mais humaine.
Oui, et ce document est un document très précieux. Il fait 130 pages et il décrit comment eux voient la société, les problèmes de la société actuelle qui viennent de l'avancée des droits sexuels et de la procréation qu'ils appellent la révolution culturelle. Ils évoquent aussi leur stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis ensuite, ils terminent avec une annexe d'une dizaine de pages avec ce qui est leur agenda, les lois qu'il faut, qui est leur programme législatif pour l'Europe. Quelles lois faut-il amender? Quelles lois faut-il promulguer? Et quelles autres initiatives faut-il prendre? Par exemple, couper les vivres au mouvement du planning familial et au mouvement LGBT. Ils font partie. Donc ça, on a leur stratégie pour l'Europe pour les années à venir.
Est-ce qu'on connaissait l'existence de tels documents, Julie Pernet, lorsque vous travaillez sur le terrain avec la cellule internationale du Centre d'Action Laïque? Est-ce que c'est tout à fait étonnant de redécouvrir finalement que les lois dont parle Neil en 2016, notamment en Pologne, c'est ça, étaient en fait prévues et établies à l'avance? Est-ce que vous saviez, est-ce qu'on était au courant d'un tel document et d'un tel lobbying?
Donc, le Centre d'Action Laïque a une action européenne et internationale en collaboration avec la Fédération humaniste européenne qui regroupe une soixantaine de mouvements laïques en Europe. Alors, c'est vrai que dans notre travail depuis, justement, 2013, on se rend compte que ces organisations existent. On les voit sur le terrain, on les voit au Parlement européen, on les voit dans les couloirs de la Commission européenne, on les voit à l'ONU, on les voit à l'OSCE, on les voit au Conseil de l'Europe. Et c'est vrai qu'on est habitué à leur argumentaire et...
Ils vous paraissaient pas dangereux?
Leur stratégie, mais c'est vrai... Alors, si, on a monté tout un travail aussi d'alliance avec plusieurs organisations, notamment des organisations des droits des femmes, l'organisation de Neil, mais aussi des catholiques pro-choix et des organisations LGBT pour essayer de contrer au mieux le lobbying de ces organisations au niveau européen et au niveau de l'ONU, avec d'ailleurs plusieurs succès. Donc c'est quelque chose, effectivement, on est vraiment... alerté de leur existence. Maintenant, là où ce rapport est intéressant, c'est qu'il structure vraiment, il offre vraiment une vision structurée des acteurs, des financements, de la stratégie. Et donc, c'est aussi un très bon outil de sensibilisation. Donc pour les politiques et pour les journalistes et pour tout un chacun d'ailleurs. Et c'est vraiment un bon outil aussi parce que on se rend compte à la lecture de ce rapport que ce ne sont pas des organisations qui visent seulement l'avortement et le mariage gay, comme c'est souvent comme on en parle souvent,
les tendards en tout cas
de leur combat dans les médias, mais c'est aussi des organisations qui sont profondément opposées au divorce, profondément opposées à la contraception, profondément opposées aux législations anti-discrimination. Bon, je ne parle même pas évidemment de l'euthanasie, mais c'est vraiment c'est vraiment un agenda moyenâgeux. Ce n'est pas uniquement l'avortement et le mariage gay, c'est vraiment toute une vision de la famille, du couple, de la sexualité, du rôle des femmes à la maison de préférence. C'est tout un agenda très très traditionnaliste. Et donc ça, c'est vrai que le rapport le met bien en exergue et c'est effectivement utile de s'en rappeler.
D'où son importance. Mais à la lecture de ce rapport, qu'ont-ils dit? Alors d'abord, je vais faire une petite parenthèse. Quand on dit « on », c'est qui exactement? Sont-ils soutenus et comment? Par qui? Sont-ils financés? Comment et par qui?
Oui, donc à la lecture des programmes de leur réunion annuelle, on peut déchiffrer l'anatomie de ce mouvement. Donc, on trouve 5 grands groupes d'acteurs au sein de ce mouvement. Donc, un groupe central serait des personnes avec des liens très proches au Vatican, mais pas des représentants officiels du Vatican ou du Saint-Siège. Mais par exemple, on retrouve un des organisateurs, c'est le Conseil juridique du Saint-Siège au sein des Nations Unies. Donc, essentiellement, l'avocat du Saint-Siège à New York. Donc ça, c'est un des organisateurs. Une autre catégorie d'organisations et de personnes, ce sont les hommes et les femmes politiques, ceux qui sont au sein des institutions. Donc, il y a des parlementaires, mais il y a aussi des officiels au sein des institutions européennes. Une troisième catégorie, ce sont les leaders transnationaux. Donc ce sont des ONG qui développent les grandes stratégies, les grandes lignes stratégiques, par exemple sur le mariage, comment faut-il faire, sur l'avortement, etc. Et puis ensuite, ce sont les acteurs nationaux, une quatrième catégorie, qui prennent les grandes lignes stratégiques et qui les développent sur un plan national, c'est eux qui ont connaissance de quand est le bon moment pour avancer sur une telle question plutôt que sur une autre et comment la développer. Et ensuite, il y a cette cinquième catégorie qui est les bailleurs de fonds potentiels. On n'est pas certain si ce sont des bailleurs de fonds, mais on retrouve des noms dans ces réunions annuelles. On ne voit pas quelle est la relation de ces individus, si ce n'est pas pour
d'être de généreux donateurs.
Exactement.
Dans des personnes qui seraient milliardaires ou...
Oui, justement. Donc, il y a plusieurs personnes qui, on sait qu'ils ont des liens avec des milliardaires, avec des oligarques, avec des bailleurs de fonds potentiels. Donc, on ne peut pas être certain que ces bailleurs de fonds ont vraiment financé telle ou telle chose, mais on peut imaginer que ces personnes-là font partie du paysage financier de ce mouvement.
Alors, ils sont soutenus, ils ont les moyens, ils sont organisés. Est-ce qu'ils sont dangereux ? Est-ce qu'on doit vraiment se méfier ?
Oui, on doit se méfier. Une première cause de méfiance, c'est de penser que ce qu'on pensait qui était acquis est acquis. Mmh. Et non seulement concernant les droits acquis, mais aussi que l'avancée était presque inévitable. On avait, même si on ne l'a pas dit ouvertement, on pensait que bon, le mariage gay, c'est quelque chose que nous on a.
Voilà. Et qui était la résultante d'autres acquis, oui. Et ainsi de suite. Oui, tout va vers du positif.
Oui, finalement. Et puis que les autres pays vont éventuellement se rattraper. Oui. Là, on peut voir qu'il y a un mouvement de résistance organisée. C'est la première fois qu'on voit ça. Et ils l'ont très bien expliqué eux-mêmes dans leurs propres documents. Auparavant, il n'y avait pas de mouvement de résistance organisée. On faisait face à une résistance culturelle et il fallait simplement adapter la législation à l'évolution des mœurs. Maintenant, nous sommes face à une résistance organisée qui a son propre discours et qui a formulé des stratégies pour contrer nos avances.
Pour détricoter les futures avances, avant même qu'elles n'aient lieu, en fait.
Exactement. Donc, ça, c'est une première menace. Une deuxième menace, c'est qu'ils ont leur propre agenda. Ce mouvement n'est pas le reflet miroir d'une autre, mais à l'inverse, c'est un mouvement qui a ses propres revendications et qui sont actifs sur des terrains sur lesquels nous ne sommes peut-être pas tellement actifs.
Ils vont essayer de les faire passer comme tels.
Oui. Et donc, par exemple, ils ne sont pas contre l'avortement, contre le mariage pour tous, mais ils sont pour la vie, pour le mariage et la famille, pour la liberté religieuse. Ils ont tout un éventail de revendications dans ces trois domaines que peut-être nous n'avons pas encore envisagé à quoi cela pourrait ressembler.
Alors, ils font du lobbying. Contre qui ? Avec qui ? Qui essayent-ils de convaincre ? On parle de niveau politique ? On parle de la société civile ou des deux ? Julie ?
On voit en tout cas certaines actions politiques, ça c'est certain. Au niveau européen, on l'a vu via deux initiatives, deux pétitions, donc des initiatives citoyennes européennes, dont une, One of Us, un de nous, était destinée à tout simplement couper les fonds européens pour les activités, je cite, qui détruisent des embryons. Donc l'idée, c'était effectivement de couper les financements européens pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires et les financements européens pour les organisations de planning familial dans les pays en développement. Une autre initiative, donc cette initiative, finalement, a échoué et d'ailleurs a été rejetée récemment par la Cour de justice de l'Union européenne. Une deuxième initiative était... Mom, Dad and Kids, donc une initiative, une pétition aussi pour imposer une vision traditionnelle de la famille en Europe. Initiative qui a également échoué, qui n'a pas reçu le nombre suffisant de signatures en Europe. On les voit aussi à l'ONU. Alors après, il y a des choses qui sont moins visibles. C'est à coup d'amendements dans des textes, dans des recommandations. Ça, c'est très clair. C'est un travail continu. C'est à coup de conférences pour inviter et sensibiliser les décideurs politiques. Donc voilà, il y a tout un travail de fond politique, évidemment à l'intention des politiques. Ça, c'est très clair. Ensuite, effectivement, il y a des initiatives citoyennes, Ménil pourra peut-être en parler, donc certainement comme on a vu dans les pays d'Europe de l'Est, qui émanent d'organisations citoyennes, mais qui visent de toute façon toujours à un moment donné à aller convaincre le politique. Mm-hmm. C'est ce qui se passe en ce moment en Roumanie. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Neil.
Mais justement, je crois qu'une leçon à tirer de ceci, c'est qu'il y a un volet politique dans l'agenda pour l'Europe. Mm-hmm. Donc, on a décrit dans le rapport une bonne quinzaine d'initiatives politiques, aussi bien à l'échelle nationale que dans les institutions européennes.
Donc, initiatives politiques, c'est vraiment clairement des projets de loi.
Oui, voilà. Des projets de loi, des initiatives pour amender les constitutions mm-hmm. nationales. Donc, c'est cet ordre-là de politique. Donc, nous avons identifié au moins une bonne quinzaine qui émanent de ce réseau et qui ont pu aboutir dans certains cas. Le référendum sur le mariage traditionnel qui aboutit à un amendement de la Constitution en Croatie émane de ce mouvement.
Donc ils ont
pu amender une constitution nationale. D'autres initiatives politiques ont beaucoup moins bien réussi. Donc ils ne sont pas tout puissants. Mm-hmm. Donc il y a ce niveau politique. Il y a aussi un niveau sociétal. Mais ce niveau sociétal qui consiste à essayer de mobiliser les sociétés mm-hmm. sur un certain agenda. Donc j'étais en Croatie la semaine passée. Il y avait la marche pour la vie dans 3 villes de Croatie. C'était organisé par une des leaders de l'agenda pour l'Europe et c'était justement pour mobiliser les Croates pour une vision plus conservatrice de leur pays. Mais ce qu'il faut retenir de ce mouvement social, c'est que c'est un mouvement d'élite qui arrive à mobiliser certaines personnes par le biais des institutions, des religions organisées. Mm-hmm. Donc, on trouve les élites à l'échelle internationale qui se mettent d'accord pour une certaine stratégie et ensuite utilisent les institutions essentiellement de l'Église catholique pour mobiliser les fidèles, mm-hmm. pour sortir dans les rues, pour revendiquer un certain agenda. Mm-hmm. Donc, ce qui peut apparaître comme étant quelque chose de grassroots, qui émane du bas, en fait, est piloté du haut.
Oui, toujours sur, évidemment, la peur, les discriminations, mm-hmm. La peur de l'autre, pour soulever les foules, je dirais.
Oui, ils ont eu une idée de génie. Tout ce qui ne leur convient pas, ils ont pu définir comme étant l'émanation de l'idéologie du genre. Donc ça,
c'est-à-dire.
Donc l'idéologie du genre, c'est essentiellement toute innovation de la société qui pourrait déplaire à l'Église catholique. Donc ça va du divorce à la contraception,
l'éducation à la sexualité dans les écoles.
Oui, l'éducation à la sexualité dans les écoles, l'autonomisation des femmes, les droits LGBT, tout ça, ce sont des émanations de l'idéologie du genre. Et donc c'est un concept assez vide, mais en même temps qui peut faire peur et qui peut mobiliser.
Et qui utilise la désinformation, j'imagine.
Exactement. Donc, oui.
Est-ce qu'il y a une petite lueur d'espoir tout de même? Est-ce que le fait d'avoir sorti ce rapport, de pouvoir le mettre entre les mains du plus grand nombre pour informer, est-ce que c'est utile? Est-ce que vous avez eu des réactions? Est-ce que justement les anti-choix ont réagi par rapport à ce rapport? Est-ce que vous avez vous-même des pressions?
Oui, donc c'est très intéressant. Les anti-choix ont réagi. Ah. Il y a eu 3 réactions. Une était de... Une des réactions reconnaissait l'existence des sommets annuels, mais qui disait que le rapport n'est pas entièrement correct sur d'autres points. Un autre, le blog même en question, qui a rédigé une page entière à propos de moi personnellement.
Mm-hmm. Vous dessinant un portrait tout à fait avantageux, j'imagine.
Oui, et puis sinon une organisation espagnole qui nous a envoyé une lettre par leurs avocats.
Preuve que le rapport dérange,
ce qui est plutôt positif. Donc ça a l'air qu'on les a piqués avec ce rapport. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que, à part les attaques personnelles, ils ne démentent pas ce qu'il y a dans le rapport. Ils ne disent pas qu'on a mal exprimé leur point de vue. Ils ne disent pas non, nous sommes en faveur du droit au divorce. Ils ne le disent pas. Ils disent. Ils se taisent sur le contenu du rapport concernant leur propre position. Donc je crois qu'ils comprennent que leurs positions sont tellement extrémistes qu'ils n'osent même pas les avancer dans le domaine public. Mm-hmm.
J'imagine, bon, les auditeurs qui nous écoutent brûlent de cette question, et moi aussi, mais vous m'avez dit hors antenne que je ne pouvais pas vous la poser, je vous la pose. J'imagine que vos sources sont extrêmement cachées, délicates. C'est un travail de longue haleine. Comment est-ce que ce rapport est sorti de terre? Ça, vous ne le direz pas.
Non, je peux dire certaines...
Vous avez envie de continuer le travail,
j'imagine. Oui, non, je peux dire certaines choses. Nous avons suivi les mouvements quichois depuis plus de 5 ans maintenant.
Vous avez infiltré, en quelque sorte.
Pas nécessairement infiltré, mais nous les suivons. Tout ce qu'ils font est plus ou moins public, donc il suffit de connaître...
Il suffit de noter tout et de se dire, tiens, oui, pourquoi ont-ils fait ça, de réfléchir un petit peu.
Oui, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe et de pouvoir faire les liens entre différents événements et ce qui est ce que eux-mêmes communiquent.
Bien connaître son ennemi, c'est pouvoir le combattre, évidemment.
Tout à fait, c'est la première chose à faire.
Alors, une petite conclusion, Julie, comment combattre ces antichois? Est-ce que la laïcité, puisqu'on est quand même là au centre d'action laïque, peut avoir un rôle important à jouer?
Mais oui, je pense qu'il y a plusieurs pistes d'action et on s'y attelle de toute façon depuis un certain nombre d'années. Visibiliser ces oppositions, donc c'est pour ça que le rapport en tout cas nous semble important. Les visibiliser et les décrédibiliser, parce que ce sont des mouvements qui ne sont pas crédibles, dont la méthodologie n'est pas fiable, et qui se font passer pour des mouvements légaux, scientifiques, non religieux, etc. Et il faut
et
pas gratter
pas. Il faut décoder, en fait, et que tout un chacun décode.
Donc vraiment aussi sensibiliser les politiques et les décideurs politiques qui pourraient un petit peu, j'ai envie de dire, tomber dans le panneau. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi depuis plusieurs années en partenariat avec d'autres ONG. Et là où on est quand même assez content, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une prise de conscience quand même du milieu politique par rapport à ce genre d'organisation, même si tous ne sont pas toujours bien alertés. Et puis voilà, au niveau de la laïcité, eh bien, continuer notre travail au niveau politique, s'assurer que les textes continuent à ouvrir de nouveaux droits, s'assurer qu'on a les alliances pour les faire passer, et rappeler aussi que le projet que souhaitent ces organisations n'est pas le nôtre. Nous voulons un projet de société où les gens ont la liberté de choix, où on reconnaît la diversité des couples, des familles, où les gens ont des droits.
Et que le choix d'une communauté, qu'elle soit chrétienne, catholique, ne doit pas s'appliquer à tout le monde.
Tout à fait. Celles et ceux qui souhaitent suivre les lignes directrices de leur religion ou de leur église peuvent le faire, mais ne cherchent pas à l'imposer à tous et à toutes.
Très bien. Nil Data, le mot de la fin. Un rapport qu'on peut trouver où?
Oui, on peut trouver ce rapport sur notre site web, sur www.epfweb.org.
epfweb.org.
C'est ça. Oui.
Voilà, c'est bien noté. Merci à tous les deux d'avoir été présents lors de ce débat. Mais avant de se quitter, on retrouve et on accueille Sandra Evrard. Bonsoir Sandra.
Bonsoir Catherine.
Rédactrice en chef du magazine Espace de Liberté, pour nous présenter le dossier du mois de juin. Alors, la crise financière, est-ce qu'on en est sorti? Le dossier de ce mois de juin aborde donc les questions économiques et leur impact sur nos droits.
Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que les experts interviewés dans le cadre de ce dossier ne sont pas très optimistes. Certains estiment même que plusieurs paramètres sont encore et toujours dans le rouge et que rien n'a changé depuis 2008 pour consolider l'économie et surtout la mettre à l'abri de potentielles détonations.
D'où pourraient-elles survenir alors ces détonations, Sandra Evrard?
Alors, de plusieurs fronts, les experts épinglent une abondance des liquidités sur le marché qui n'a pas été absorbée par l'économie réelle, mais aussi une spéculation qui est repartie de plus belle, une fragilité bancaire en Chine, des paradis fiscaux toujours aussi actifs et qui pourraient même être encouragés grâce au Brexit. En gros, certains pensent que nous n'avons pas tiré les leçons de la crise de 2008.
Oui, mais y a-t-il des notes d'espoir alors?
Oui, dans notre dossier, nous passons en revue plusieurs pans de l'économie qui fonctionnent un peu différemment. Il s'agit par exemple de l'économie sociale et solidaire qui occupe en Belgique près de 14% de salariés dans le domaine de l'aide aux personnes, de la culture, des modes de consommation alternatifs, éthiques et participatifs. Alors, le dossier évoque aussi l'économie circulaire qui se base sur la récupération des déchets. Même si tout n'est pas parfait dans ce domaine, c'est quand même un modèle économique positif en termes de durabilité.
Et vous nous parlez aussi de gros sous, de sous dans ce dossier.
Oui, en effet, et plus particulièrement des monnaies complémentaires. Alors attention, pas les monnaies de style bitcoins, mais des monnaies locales qui ont pour but de favoriser les circuits de consommation courts. Par exemple, des petites épiceries de quartier qui vendent des produits bio cultivés par des agriculteurs non loin de là. Ceci n'est qu'un exemple. exemple, les monnaies locales sont très diversifiées et s'appliquent parfois à l'ensemble des commerces d'un quartier. Alors nous recevons Bernard Littard dans ce dossier qui est l'un des concepteurs de l'écu, c'est-à-dire l'archétype de la monnaie unique européenne. Il nous explique le rôle de résilience joué par ces monnaies complémentaires, toujours dans ce dossier Espace de liberté du mois de juin consacré à l'économie.
Merci Sandra, un magazine que l'on se procure de quelle manière ?
Eh bien sur notre site internet laïcité.be.
Voilà qui est noté, à très bientôt et bonsoir à tous.
En quête de sens
sur la première.